Vous écoutez
RMC.
RMC.
On s'est bien fait entuber par un arbitrage maison.
Un arbitre de touche, il décide de l'issue d'une rencontre comme ça. Et lui, je sais pas ce qu'il avait. Il voulait pas qu'on gagne.
Et on a marre de cet arbitrage français. Et on nous explique que l'arbitrage français est le meilleur de France.
Quand ils vont siffler un pénalty à Lyon, bah, ils le sifflent plus. Il faut vraiment qu'il soit flagrant. Hein.
C'est jamais là, c'est Kourou. C'est jamais là, c'est Kourou.
RMC, l'afterfoot.
Karine Galli.
23h02, vous êtes à l'écoute d'RMC avec Maxime Chanois et Kelton Mokolo, avec vous sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424 et aussi au 32 16 sur RMC. Je peux te dire que sur notre question de la galette, il y en a beaucoup qui aiment le classique comme moi. La jambon, œuf, fromage, du basique, du simple. Tout le monde valide.
Ouais, c'est la passe latérale, quoi.
Bah, attends, mais pourquoi faire toujours des essais?
Tu manges ça même dans le sud de la France, avec la chaleur et tout. Tu manges qu'à Paris, la galette ou...
Mais non, quand je vais en Bretagne, moi je mange local.
Ah, ouais, d'accord.
Quand je vais en Bretagne,
oui,
je mange une galette.
Burgers, c'est vrai.
Ah bah oui, non, moi je mange local, je mange les spécialités où que je sois. On va revenir à Lyon, messieurs. Lyon qui rêve de retrouver la Ligue des Champions 6 ans après sa dernière campagne. J-1 donc avant le barrage aller de Ligue des Champions. Ça va se jouer en Turquie sur la pelouse du Fenerbahçe. Coup d'envoi à 21h. C'est à suivre évidemment en intégralité sur RMC. Demain, les Lyonnais qui ont fait le job, c'était face au Sparta Prague pour avoir la chance de rêver de cette Ligue des Champions. On va écouter d'abord Paulo Fonseca, l'entraîneur, sur l'importance de ce match.
Nous arrivons ici pour être la même équipe. Nous savons que le deuxième match est important. Nous ferons ici un bon résultat. Le deuxième match peut être important si demain nous pouvons avoir ici un bon résultat. C'est pourquoi, pour moi, le premier match est vraiment important pour les équipes, est vraiment important pour nous. Nous arrivons ici pour être la même équipe. Nous n'arrivons pas ici pour défendre tous les thèmes. Nous voulons jouer le notre jeu. Nous savons que nous jouons contre une grande équipe. Nous devons défendre bien. Nous arrivons ici pour faire le notre jeu.
Lyon n'a jamais perdu contre le Fenerbahçe, messieurs. 5 confrontations, 4 victoires et 1 nul pour les Lyonnais. Les statistiques sont en faveur des Lyonnais. Est-ce que vous êtes confiant après ce qu'on a vu aussi lors du tour précédent? On rappelle, défaite, c'était sur la pelouse du Sparta Prague et il y avait une très bonne réaction devant un public en masse, 50 000 personnes qui étaient venues voir la qualification des Lyonnais et un match plein avec des joueurs qui étaient au rendez-vous.
Confiance, c'est un grand mot. Je dirais intrigué par rapport à cette double confrontation ô combien importante pour les deux équipes qui ont tellement besoin de retrouver la Ligue des Champions. Mais si on a le prisme français et surtout le prisme lyonnais, on a envie de voir cette équipe grandir match après match, semaine après semaine, parce que on a évoqué le match aller contre Prague qui était vraiment décevant et le match retour où t'as quand même bien réagi, et là t'as une double confrontation face à une équipe qui a beaucoup investi. Et du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est l'occasion de changer ton histoire récente, parce que au-delà de l'équipe, au-delà du club, c'est l'environnement qui a besoin d'avoir quelque chose de positif avec ce retour en Ligue des Champions, parce que depuis le cycle 2023, Lyon, c'est l'histoire des rendez-vous manqués, des rendez-vous loupés. On peut faire la liste, elle pourrait pas s'arrêter, et là il faudrait que l'Olympique Lyonnais puisse casser cette dynamique et retourner en Ligue des Champions. Donc c'est pour ça que moi je suis intrigué.
Voilà, ils n'ont surtout pas intérêt à se louper sur ce rendez-vous-là, parce qu'économiquement parlant, je pense que le club en a besoin.
Mais même pour l'environnement, tu vois, l'état d'esprit,
oui,
tout,
avoir déjà, un truc positif. Rien que déjà pour l'argent, je pense que Lyon a vraiment besoin de se qualifier. Alors pour pouvoir se qualifier, il faudra faire un bon match à l'extérieur. Et lorsqu'on regarde le premier match contre Prague, où Fonseca avait complètement pété un boulon en essayant de mettre un schéma tactique complètement expérimental et qui a tourné au fiasco, ils ont cette chance justement de perdre que d'un but d'écart. Hein. C'était presque phénoménal. Hein. Et c'était donc derrière ce match, exactement ce match retour, où est-ce que Lyon a fonctionné et a surtout roulé sur le Sparta Prague. Donc voilà. Finalement, j'ai bon espoir. C'est un mal pour un bien, cette défaite à Prague. J'espère que Fonseca va continuer avec ce schéma tactique préférentiel. Le retour de Niakate avait fait énormément de bien pour l'Olympique Lyonnais. Et puis surtout, voilà, il était revenu à la raison en alliant Fofana et Nouama d'entrée. Je pense que ça, voilà, il faut le faire. Il faut le faire. T'as des forces en présence. T'as Openda qui a fait aussi un bon début de saison là sur le front de l'attaque lyonnaise. Je le trouve vraiment très intéressant, très compatible justement dans le jeu lyonnais. Je pense qu'il va être intéressant contre Fenerbahçe. Et puis t'as Fenerbahçe qui, je me suis fait critiquer de trois fois lorsque je disais que c'était le cimetière du foot européen. Bon, excusez-moi,
attention,
messieurs les
gars,
parce que je sais que
c'est légèrement dans l'engouement, on va dire.
Mais c'est vrai que bon, c'est pas. Alors c'est vrai que sur le papier, il y a quand même des noms intéressants, notamment l'arrivée de Greenwood. Je pense que ça risque d'être aussi intéressant de le voir revenir du côté de la France sur le match retour. Mais bon, quand on parle de Lukaku, c'était des joueurs, j'ai beaucoup de respect pour eux. N'Golo Kanté, j'ai beaucoup de respect pour eux.
On va en parler du Fener, Maxime.
J'ai beaucoup de respect pour eux, mais c'est quand même pas des premières fraîcheurs. Donc j'ai bon espoir que la vivacité, l'envie, la jeunesse lyonnaise puisse prendre le dessus sur cette équipe de Fenerbahçe. Par contre, il va falloir encore une fois que Fonseca va se mettre la tête à l'endroit et voit exactement ce qui s'est passé sur le match aller à Prague pour pas refaire les mêmes erreurs.
Là où t'as raison sur le mal pour un bien, c'est que moi j'ai noté une évolution dans la communication de Fonseca, parce que autant avant Prague, le match aller, il y avait une résignation quant à la qualité de son équipe, la qualité de son 11 de départ, ce qui avait amené notamment cette formation hybride où il s'était perdu. Autant là, alors peut-être que c'est qu'une posture, là il te dit on va pas aller à Istanbul justement en tant que victime, on va y aller pour justement défendre nos chances, pour se donner les meilleures chances d'arriver au match retour avec un avantage.
C'est dingue que Fonseca, qui est un entraîneur quand même expérimenté, qui connaît bien son groupe, soit arrivé à Prague avec cette tactique. J'arrive pas à comprendre. On va pas revenir sur ce qui s'est passé. Bravo à Lyon, ils sont qualifiés. Vraiment, moi, j'avais pas compris. Alors, est-ce que c'était le dernier match amical contre le Betis, ou est-ce qu'il s'était fait laver?
Et
je pense, en effet, ça a eu une influence négative visiblement sur Fonseca d'avoir essayé de changer sa composition tactique. Là, il va revenir sûrement à des choses un peu plus pragmatiques, ce que les joueurs ont bien digéré, c'est-à-dire un schéma tactique qu'ils maîtrisent. En remettant un Tolisso en tant que milieu relayeur, qui a fait un très très bon match retour contre Prague d'ailleurs. Mais ouais, donc clairement, je pense que Lyon a ses chances. Voilà, maintenant, si tu veux te qualifier en Ligue des Champions, tu dois aller battre Fenerbahçe. On sait qu'à l'extérieur, c'est pas facile, mais j'ai bon espoir, tu vois.
On va tout savoir du Fenerbahçe dans quelques instants avec deux invités. Nous aurons un journaliste spécialisé dans le football turc et on aura un supporter du Fenerbahçe qui connaît évidemment son club par cœur. On est ensemble jusqu'à minuit sur RMC. Supporter lyonnais aussi, on vous attend au 32-16 parce qu'on va faire un focus sur l'adversaire que vous allez affronter demain. À tout de suite sur RMC.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Karine Galli. 23h10 sur RMC, on est ensemble jusqu'à minuit avec Elton Mokolo.
Ça parle de nourriture,
il ne s'arrête jamais.
Elton Mokolo m'a partagé son déjeuner. Il m'a dit qu'il allait manger un cordon bleu et j'adore les cordons bleus.
Tu
veux
pas faire la sieste après avoir mangé ça?
C'est un très bon choix de plat et tu t'es régalé.
Ça, c'est le soir, non? C'est avant d'aller dormir, non?
Ah non, j'en avais besoin là.
Bah écoute, il a mangé un cordon bleu à midi, il est en pleine forme, donc ça a l'air d'être bien. Voilà. Et je te félicite. D'ailleurs, on va faire un petit coucou à ton ami qui a le restaurant Biche.
Oui, Kylian.
Un restaurant à Paris que je connais et c'est délicieux.
C'est magnifique.
Donc, je vous recommande. Bravo. Il s'appelle comment ton ami? Kylian?
Kylian.
Comme Kylian Mbappé.
Exactement.
D'accord. Ben, Kylian, on t'embrasse. Très belle adresse. J'ai déjà testé. J'ai adoré. Le cordon bleu est magnifique. Donc, si vous cherchez un cordon bleu maison à Paris, direction Biche, c'est que des plats à l'ancienne, que du old school. C'est délicieux. On était sur Lyon qui va devoir affronter le Fenerbahçe demain. On a entendu les propos de Maxime il y a quelques jours parlant de cimetière en évoquant le club turc. Évidemment, rappeler des vérités. On va tout savoir sur le Fenerbahçe, ce club qui est compétitif avec deux invités. Nous avons Efe Erat, qui est cofondateur d'Actu Foot Turquie, qui est passionné du football turc. Et nous avons également Emre Dagdemir, qui est supporter du Fenerbahçe. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Messieurs, dites-nous tout concernant le Fenerbahçe. On rappelle que le Fener a commencé le week-end dernier le championnat avec une défaite 2-1, mais que c'était une équipe remaniée, on le rappelle également, c'est important. Le Fenerbahçe qui a déjà joué pas mal de matchs pour justement être dans ces barrages de Ligue des Champions, ils ont notamment éliminé les Autrichiens de Sturm Graz et il y a des noms évidemment très ronflants, hein, j'en cite quelques-uns. Greenwood évidemment qui est arrivé pour 40 millions d'euros hors bonus du côté de Marseille, Guendouzi, ancien Marseillais, Asensio, ancien Parisien, Skriniar, ancien Parisien, N'Golo Kanté, évidemment, notre champion du monde 2018 adoré, Nathan Aké, et le dernier en date, la dernière star, c'est Lukaku. Donc, messieurs, est-ce que ce Fenerbahçe, quand on voit tous ces noms, est un adversaire qui doit faire peur aux Lyonnais?
Alors, moi, pour commencer, je vais commencer par dire que ce club, de manière générale, a été plus ou moins refondé l'été dernier avec un changement de président, un changement de coach et de nouveaux transferts. Le terme de cimetière, moi je trouve qu'il est assez lourd, parce que mine de rien, le club recrute aussi des jeunes talents. Je pense à Cédric Chérif, qui est certes sur le départ, mais qui est un gros prospect. Et également le coach qui a des nouvelles idées, Ismaël Gartel, qui a signé une saison il y a 2 ans à 99 points. Et donc qui a vraiment un système de position très classique, mais voilà, qui mérite quand même d'être salué. Et je pense que cette équipe a des armes qui peuvent faire peur et qui doivent faire peur à Lyon, surtout à l'extérieur. L'ambiance à Cadoquet, on la connaît, elle est électrique, les supporters sont front en feu. Et donc, par conséquent, c'est un match vraiment à prendre avec beaucoup de pincettes, je pense, beaucoup de précautions du côté lyonnais. Le jeu lyonnais, en fait, va permettre au jeu de Fenerbahçe de s'ouvrir. Et donc, ça permettra forcément, je pense, de voir des occasions des deux côtés. Et je suis assez curieux du résultat, en tous les cas.
Emre, toi, t'es supporter du Fenerbahçe. On rappelle que le club que tu supportes a terminé deuxième du dernier championnat. Par rapport à ce que vient de dire Efe, par rapport au système mis en place avec deux joueurs qu'on connaît très bien, qui sont très importants, les deux milieux de terrain, Guendouzi et N'Golo Kanté, est-ce que pour toi, il y a un favori? Et on te demande d'être le plus objectif possible, bien sûr.
Le plus honnête.
Évidemment, je vais essayer. Mais pour être honnête, alors le Fenerbahçe, si on a regardé donc depuis le début de la saison les matchs de préparation et les matchs de qualification, on a un Fenerbahçe qui joue contre des équipes qui sont beaucoup plus faibles sur le papier. La grande faiblesse du Fenerbahçe depuis plusieurs saisons, ce sont les blocs bas. Ce sont les équipes qui jouent en bloc bas, qui jouent très défensif, et le Fenerbahçe a énormément de mal à trouver la faille durant ces matchs. C'est d'ailleurs pourquoi Azil Durum, donc le nouveau président du club, a mis autant d'argent sur un joueur comme Greenwood. Ce sont des joueurs qui savent faire la distance dans des matchs qui sont assez fermés. Honnêtement, j'aurais été assez pessimiste, honnêtement, pour le Fenerbahçe, parce que je n'ai pas vu encore une fois de match référence, comme par exemple Lyon. Ils ont gagné quand même 3-0 contre Prague. C'était un match qui était quand même assez intéressant au niveau de leur jeu, qui était complètement à contre-courant de ce qu'ils nous ont proposé au match aller. Le Fenerbahçe n'a pas de match référence pour l'instant, mais je suis quand même optimiste dans mon pessimisme, parce que je sais que Lyon va jouer, Lyon va mettre en place on a des cartes, bon, là, Lyon va jouer avec ses cartes et va ouvrir des espaces que justement Fenerbahçe va essayer d'utiliser.
Moi, j'ai une question par rapport au coach Kartal, donc qui était déjà passé au club il y a une dizaine d'années, si je dis pas de bêtises. Comment il gère notamment cette injection de talent, vieillissant certes, mais de talent, parce que c'est quand même un défi d'harmoniser tout ça et de rendre cette équipe compétitive.
C'est une très bonne question. Alors Kartal, c'était un coach qui est passé donc en 23-24, saison 23-24, donc quand même très récemment. C'est un coach qui a des visions claires, il joue un jeu de position assez offensif. Et cette année, il a des joueurs qui sont de renom. Ce sont des joueurs qui sont certes de renom, mais dans le système de Kartal, il y a un joueur qui est ultra important, c'est le numéro 8. C'est le joueur qui fait le relais entre la défense et l'attaque. Malheureusement, Asensio n'est pas ce joueur-là, parce que c'est un 10 qui est très offensif. Et malheureusement, la direction n'a pas encore trouvé ce joueur-là qui est ultra important dans le système cartalien. Et c'est justement cette faille, cette faiblesse-là qui fait que Fenerbahçe n'est pas encore une équipe totalement prête, et que c'est une équipe qui va encore faire un travail sur le mercato pour trouver ce joueur-là.
Ah, du coup, c'est une équipe qui peut être coupée en deux si elle est très portée sur l'offensive.
Tout à fait, bah, c'est ce qu'on a vu justement au premier match de la saison. Malgré que ce soit une équipe qui a été remaniée, on a perdu 2-1 donc à Ankara, on voyait une équipe qui était défensive, on voyait une défense et une attaque qui n'était pas reliée. On voyait un Kanté qui est donc un numéro 6 de formation, c'est quelqu'un qui rase le terrain, qui récupère les ballons. On le voyait surperformer, on le voyait endosser un rôle de presque 8 créateurs, ce qui n'est pas de formation. Kanté, qui est un joueur qui est exceptionnel, ok, il est assez âgé, mais
qui a été exceptionnel. Plutôt.
Qui est exceptionnel, il te dit.
Non, qui a été. Ça a été un super joueur dans son prime. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je rebondis très rapidement lorsque j'avais dit avec beaucoup de respect, hein, évidemment, et d'humilité, hein, sur ce championnat turc et notamment sur Fenerbahçe. Quand j'avais dit qu'en règle générale, Fenerbahçe récupère quand même des joueurs en bout de course, quand tu regardes les arrivées, alors certes, tu m'as parlé de Sidiki Chérif, mais derrière Lukaku, plus de 30 ans, Nathan Aké, plus de 30 ans, Muriqi, plus de 30 ans, sans parler d'N'Golo Kanté, de Skriniar, d'Ederson. Enfin, de même de Semedo, on est d'accord qu'on est sur un effectif quand même qui n'est pas de première jeunesse.
La moyenne d'âge, c'est 30,5 ans.
Voilà, bon, ce qui. Est-ce que tu penses sincèrement que contre la vivacité et la verticalité de Lyon, ça risque de passer?
Bah justement, c'est là où un Skriniar dans les grands soirs, c'est exceptionnel, c'est très très fort. Bah, en tout cas, en Super League, il nous a prouvé, même du coup dans les matchs de qualification contre l'équipe autrichienne de Graz, il a été très solide.
Ah bah, Elton aussi, dans les grands soirs, dans le foot à 5, il est pas mal, mais 95% du temps, Elton est moyen.
Ça, je te le confirme, ça, ouais. C'est pas énorme.
Et fait une question concernant le Fenerbahçe. Votre meilleur buteur actuellement, c'est Talisca, 5 buts en 5 matchs. Pour l'instant, on n'a pas encore vu la nouvelle recrue, le Belge Lukaku, parce qu'il vient à peine d'arriver. Est-ce que c'est prévu qu'on puisse le voir dès demain? Est-ce que ça sera Talisca qui sera en pointe?
Alors, Ismaël Kartal a évoqué hier une éventuelle entrée en cours de jeu de Lukaku. Il n'a pas de préparation, donc c'est peu probable qu'il démarre sur titulaire dans l'once de départ. En revanche, il est probable qu'on voit Talisca en faux neuf en début, ou alors un Moritz sûrement en pointe s'il décide de faire démarrer directement l'équipe type au départ.
Lukaku, vu son profil, vu son physique et puis retour de vacances, à mon avis, je pense qu'on va attendre quelques semaines avant de le voir à son top. Hein. Beaucoup de respect, parce que j'aime beaucoup le joueur, mais bon, j'ai beaucoup aimé le joueur il y a quelques années. Là, honnêtement, il est quand même
en train de partir.
Il a été bon à la Coupe du Monde.
Ouais, si, en sortie de banc, il était pas mal. Quand il était titulaire, c'était un peu plus compliqué. Je l'ai surtout pas trop aimé du côté du Napoli, quoi, la dernière. Donc, je lui souhaite, hein.
Bah, l'an dernier, on l'a pas vu.
Donc,
quasiment.
Donc, c'est la raison pour laquelle je disais un peu plus tôt que Fenerbahçe allait récupérer tous les joueurs en fin de parcours. Attention, hein, j'aurais rêvé, hein, jouer au Fenerbahçe, mais c'est vrai que pour aller inquiéter, j'ai pas demandé. Hein,
ton agent a pas eu d'idée.
Non. Et ça, sache que j'ai eu pas mal d'opportunités d'aller en Turquie, mais j'avais toujours un peu peur des salaires impayés. Voilà. Qui est quand même quelque chose.
C'est un problème qui est effectivement présent dans le cas des clubs d'Anatolie, mais les clubs d'Istanbul, c'est rarement le cas quand même.
D'accord. Mmh, ouais, ça n'existe pas du côté du Fenerbahçe, parce qu'on sait, bon.
Non. Sans revenir. La capitale, il n'y a pas de souci, on
d'accord.
nous dit.
Ouais, bon.
Alors, c'est pas la capitale, ouais. Istanbul, mais.
Ouais, alors, c'est
un petit scandale il y a quelques années, mais en général, ça va, à ce niveau-là, d'accord. On a des bons sponsors.
D'accord, c'est pas ce que me disent mes copains, mais bon, écoute, peut-être que ça touche peut-être pas tous les joueurs.
Et moi, j'aurais une question. On a parlé de ces talents qui arrivaient, donc ces joueurs qui étaient dans des équipes très importantes en Ligue des Champions. On sait aussi également qu'il y a aussi des talents turcs. Comment ils arrivent à exister dans un club comme Fenerbahçe ?
C'est une très bonne question.
C'est une excellente question. Ouais,
écoute, on essaye.
Alors, on va vous entendre tous les deux. Peut-être, Effet, en premier, pour répondre à la très bonne question d'Elton.
Alors, depuis très longtemps, il y a un problème de formation en Turquie. Je pense que depuis peu, on a quand même réussi à faire émerger des talents. Je pense à Arda Güler, qui sera directement du centre de formation de Fenerbahçe. Ça oui. arrive qu'il y ait des éclosions comme ça, qui sont certes pas fréquentes, mais il y en a. En revanche, là, actuellement, dans l'effectif de Fenerbahçe, il y a, on va dire, entre 2 et 3 joueurs turcs qui arrivent à sortir du lot. Il y a Kerem Aktürkoğlu, l'ancien aîné de Galatasaray, qui est revenu pour un transfert d'ailleurs record.
Oui, rocambolesque.
Et rocambolesque aussi, effectivement, il faut le dire. Également Lidia Ozaydın, qui est certes formé en Autriche et qui est donc binational, mais qui joue pour la Turquie et qui a ce rôle dans le 11 aujourd'hui. Et en défense également, l'attaquant droit, Mert Müldür, pareil, qui joue assez régulièrement.
Est-ce que Under aura du temps de jeu à Fenerbahçe cette année, l'ancien Marseillais qui était prêté à Beşiktaş? Est-ce qu'il a...
Deniz Under, il sort d'une saison difficile à Beşiktaş, il n'a pas réussi à s'imposer là-bas, alors que c'est un Beşiktaş qui est en reconstruction. Je ne pense pas qu'il soit dans les plans de jeu d'Ismail Kartal.
Messieurs, j'aimerais savoir, parce qu'en fait, moi je suis assez surprise en vous entendant, je vous trouve très prudent. J'avais l'impression que finalement le Fenerbahçe était un petit peu plus impressionnant, qu'il pouvait faire un petit peu plus peur à cette équipe de l'Olympique
Lyonnais.
Mais attention
Karine, il y a aussi le poids de l'histoire pour Fenerbahçe, parce que ça fait extrêmement longtemps qu'ils n'ont pas joué la Ligue des Champions, et quelque part t'as aussi des fantômes à chasser.
Oui, mais après les fantômes, ils existent des deux côtés aussi quand même.
Ah ben c'est pour ça que je te dis, en fait, c'est deux clubs qui ont des points communs, à savoir qu'il faut impérativement retrouver avec des champions. C'était des places, peut-être pas des places fortes, mais c'était des cartes postales avec des champions. Je rappelle, on a connu des Fenerbahçe qui étaient quart de finaliste en 2008.
Merci beaucoup.
Il y a 18 ans quand même, Elton. Hein. Ça va, si tu vis dans le passé en 2008. L'Étoile Rouge de Belgrade l'a gagné aussi, la Champions League. Enfin, à un moment
2008-2009, c'est la dernière participation du Fener en Ligue des Champions. Mais l'histoire est importante.
L'histoire est importante.
Surtout l'histoire, elle est importante pour Lyon de comprendre que c'est un match qui va se jouer en deux manches. Et donc, c'est très, très important sur ce premier match aller, justement, de ne pas plomber leur chance. C'est la raison pour laquelle moi, je suis convaincu que Lyon va y aller avec toute leur qualité et toute leur verticalité. Je ne serais pas surpris, hein, je l'ai dit un peu plus tôt, mais voir les Lyonnais mettre en danger, en difficulté cette équipe de Fenerbahçe qui, ma foi, pour moi, paraît vieillissante et surtout un manque criant de vitesse, et notamment avec un Skriniar quand même qui vieillit. Et même si apparemment il est énorme sur les grands matchs, et je leur souhaite, je vois bien Lyon en tout cas aller récupérer un résultat là-haut.
Et du coup, cette question par rapport à un possible retour en Ligue des Champions,
Emre, est-ce que toi, en tant que supporter, évidemment, tu la vis au quotidien avec tes amis, le fait que vous attendez ça depuis fort longtemps?
Surtout quand tu vois un Galatasaray, je suis obligé de le citer, qui a fait une bonne campagne avec le 8e de finale.
Bien sûr, évidemment. Et c'est même une des raisons de pourquoi est-ce qu'on a une équipe qui est assez vieillissante, c'est que chaque saison, c'est une saison où on fait un all-in, où on prend des joueurs qui sont déjà confirmés pour justement se qualifier en LDC ou pour justement chercher le titre qu'on n'a pas depuis assez longtemps. Donc oui, on a hâte, on est sur les starting blocks, on n'en peut plus.
Ça n'a pas trop fonctionné, hein, cette tactique.
Tu te rends compte qu'ils avaient le nouvel entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, il y a encore peu.
Ça n'a pas trop fonctionné. C'est un peu surprenant parce qu'à un moment donné, Fenerbahçe se positionne sur un jeune joueur qui commence à éclore du côté d'Angers, Sidiki Chérif, et là ça a complètement finalement changé de tactique quand tu vas chercher un Lukaku.
Il y a un miroir, malheureusement le miroir c'est Galatasaray. Quand ils performent, quand ils sont champions, bah forcément t'es obligé de réagir pour reprendre le lead.
Messieurs,
malheureusement,
une question,
il y a une logique.
Oui. Ouais.
Juste pour rebondir sur ça, il y a une logique en fait qui est vraiment propre au championnat turc. Chaque année, c'est à pression des supporters. C'est-à-dire que chaque année, on attend un titre, on attend que le club ramène des gros noms, on attend que on prenne un trophée enfin après 12 ans en l'occurrence pour Fenerbahçe. Et donc ça fait que chaque saison, malheureusement, il y a un engrenage qui fait que on vend un gros nom, on ramène des joueurs expérimentés. Ça paye pas, on rechange, on refait la même chose l'année prochaine.
J'ai des idées pour vous, hein. Sergio Ramos, Memphis Depay, il ferait pas de tâche, non, au Fener?
Actuellement, si, quand même, faut pas non plus abuser, non. Non, actuellement, ils font tâche.
2014, c'est la dernière année où le Fenerbahçe a gagné le titre de champion de Turquie. Dernière question, messieurs, je vais commencer avec Efe. Demain, est-ce qu'il y a un favori ou pour vous, c'est vraiment du 50-50?
Moi, je dirais plus du 60-40 pour Fenerbahçe, mine de rien, ils ont l'avantage de jouer à domicile.
Ah, donc, le Fener, ça favori quand même.
Ça, j'aime bien, ça, 60-40.
Moi, je dirais un match serré, sûrement ouvert, comme l'a dit Emre, avec des buts. Peut-être j'aurais dit un 2-1 là, comme ça. Mais je pense quand même que Fenerbahçe a les armes à la maison de faire des dégâts à Lyon.
Et alors, le supporter aimerait toujours objectif, hein, et on te remercie. Demain, est-ce que pour toi, il y a un favori?
Bien sûr, demain, il y a un favori. Je pense que, comme Efe a dit, ça sera un match ouvert, donc le Fenerbahçe va enfin pouvoir jouer au football. Et j'espère un 3-1, mais je pense qu'on va gagner 2-1.
Oh bah écoute, magnifique. Et dernière question peut-être, qui vous redoutez le plus côté lyonnais?
Je te laisse aller, Emre.
C'est le jeune Fofana qui est extrêmement vertical, extrêmement en profondeur. C'est très vif, c'est très rapide. Et contre un Semedo qui est très irrégulier, ça me fait un peu peur parfois.
La vitesse du Belge. Et pour toi,
Je dirais c'est un petit peu ce qui manque à Fenerbahçe, justement, c'est ce 8-là, c'est Tolisso qui apporte, on va dire, je pense, un contrôle et vraiment une maîtrise du milieu de terrain qui manque beaucoup à Fenerbahçe.
Merci beaucoup, messieurs. Et on rappelle que Corentin Tolisso a été très bon lors du match retour. Il avait retrouvé une position préférentielle et il avait été l'un des grands artisans de la qualification. Merci beaucoup. On rappelle Efe Erat, qui est cofondateur d'Actu Foot Turquie, passionné du football turc, et Emre, qui est un supporter du Fenerbahçe. Juste, Emre, tu seras présent au stade demain?
Justement, je voulais y être, mais comme on a perdu 2-1, j'étais tellement triste que j'ai pas pris les billets finalement.
Bon, on est supporters dans toutes les situations, dis donc.
C'est début de saison,
mais je serai à Lyon.
Ah, d'accord.
Ah, Lyon, oui, ok.
Un petit voyage. Ok, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été à nos côtés pour nous présenter le Fenerbahçe. On rappelle, adversaire de Lyon demain en barrage aller de Ligue des Champions, et ça sera à suivre en direct sur RMC. Coup d'envoi. 21h.
Bah oui, bah oui, 21h quand même.
Si, si, on suit, bien évidemment.
Oui, mais parce que vous savez, il y a des horaires qui changent tout le temps. Parce que jeudi, Monaco joue à
20h.
Voilà, on s'y perd.
C'est bien de le rappeler.
Bon, voilà,
on a le calendrier des clubs France en Coupe d'Europe. Ah,
c'est très compliqué, on s'y perd. En tout cas, Yannick qui nous dit « Moi, je suis quand même inquiet pour demain parce que l'ambiance, évidemment, que le Fenerbahçe va mettre à Istanbul, dans le stade, ça peut faire
des dégâts. » C'est vrai que niveau supporter en Turquie, c'est incroyable. Attention, hein, je n'ai pas dit que Lyon allait gagner le match. Ça va être un match compliqué. Mais quand j'entends « Regardez Fenerbahçe, ils ont rajouté Lukaku, il y a une Golo Kanté, il y a Skriniar. » En fait, je suis en train de te dire que ce n'est pas l'accumulation de noms qui permet de pouvoir réussir dans le ballon. Et donc, c'est vrai que quand je regarde, ça me fait penser un petit peu aux équipes Football Manager. Tiens, tu connais bien Elton. Ou est-ce que tu alignes un petit peu les noms? Tu ne joues pas à Football Manager?
Non, pas trop. D'accord, pas trop.
Ouais, bien sûr.
Quand tu alignes un petit peu les noms qui sont un petit peu à bout de souffle,
après,
et c'est pas forcément un gage de réussite.
T'as un Fonseca qui arrive spontanément après Prague, il dit ce sont eux les favoris.
Non mais bien sûr, mais il se décharge de la pression. Il a tout à fait raison de dire ça. Mais c'est vrai que quand tu regardes un petit peu cette équipe vieillissante qui manque un petit peu de verticalité et de vitesse, d'ailleurs l'auditeur l'a dit très justement. Lorsque tu regardes un petit peu aussi les qualités de Lyon et notamment ce trio offensif qui va très très vite vers l'avant avec un Tolisso, Karine aussi l'a dit, qui a retrouvé sa place préférentielle en tant que numéro 8, qui a été très très bon. Je me dis que Lyon a les armes en tout cas pour embêter cette équipe de Fenerbahçe et surtout d'arriver sur le match retour peut-être avec un résultat positif, parce qu'on l'a vu la semaine dernière que Lyon à domicile, mais c'est solide. Et surtout Lyon, je dis pas joue sa survie économique, c'est pas le cas, mais en tout cas a vraiment besoin de cette qualification. Non, de toute façon, donc c'est simple, forcément quelque c'est chose. Enfin, une motivation supplémentaire pour les joueurs.
Le danse
pour le
avec
club.
Les stars version football turc, c'est très bien, mais lui, il va falloir qu'il soit au niveau, il va falloir qu'il soit compétitif pour aspirer à arriver en Ligue des Champions. Grand respect par rapport aux footballeurs qui sont là-bas du côté Fenerbahçe, mais il ne faut pas non plus rentrer dans une idée où en gros ils sont imbattables. Non.
Il ne faut pas que Lyon ait peur, évidemment, demain. Je vous propose, messieurs, juste avant de se quitter, d'écouter peut-être Niakate, parce que c'était intéressant aussi, le défenseur qui a fait beaucoup de bien dans son retour la semaine dernière lors du match face à Prague. Il était en conférence de presse aujourd'hui, on l'écoute.
On sait qu'ils ont une très belle équipe, mais pas qu'offensivement. Je pense que sur toutes les lignes de leur équipe, que ce soit offensivement, défensivement, au milieu de terrain, ils ont une équipe juste monstrueuse. Donc nous, on va jouer avec nos armes. La manière dont on a joué la saison dernière ou durant toute cette préparation, on va essayer de les mettre en difficulté. Mais c'est sûr que nous, notamment les défenseurs, on devrait être très concentrés, très précis dans tout ce qu'on fait pour essayer de les mettre en difficulté. Mais défendre, c'est pas que les défenseurs. Non, c'est toute une équipe qui devra bien défendre face à ces excellents joueurs. C'est grand nom aussi en défense, au goal. Joueurs qui ont gagné de nombreux trophées. Ils ont construit une très très belle équipe. Ce sera à nous de donner le maximum.
Niakate au micro d'Edouard G, que vous retrouverez demain, évidemment, pour commenter ce match. Coup d'envoi à 21h et le retour, ça sera mercredi 26 août. Dans quelques instants, messieurs, on va parler de l'OM, parce que vous le savez, vendredi, c'est le retour de la Ligue 1. C'est Marseille qui ouvre le bal avec le match face à Strasbourg au Vélodrome. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'OM à 4 jours de la reprise? Supporters marseillais, on vous attend au 32-16. Ben, il y a un homme, en tout cas, qui lui est confiant. C'est Valbuena, champion de France 2010. Il croit en une bonne saison de Marseille. Il croit aussi en Bruno Genesio, son ancien entraîneur. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Karine Galli. 23h32, vous êtes sur RMC en direct. On vous attend évidemment au 32-16. On est avec Maxime Chanot, on est avec Elton Mokolo et on va parler de l'Olympique de Marseille. Marseille va ouvrir le bal de cette saison de Ligue 1 2026-2027. Vendredi, réception de Strasbourg. On a parlé de Strasbourg, on va parler maintenant de Marseille. Marseille qui avait fait plutôt une bonne préparation. Et puis c'est vrai que le dernier match amical a réveillé quelques démons. Il y a Bruno Genesio qui a parlé de la décision de la direction. On lui a demandé d'enlever le brassard à Højbjerg parce qu'il ne voulait pas partir à Newcastle, donc c'est Timothy Weah qui l'a récupéré. Le pauvre Balerdi, l'Argentin qui a été une nouvelle fois fautif sur un but et qui a été pris en grippe par les supporters, qui a été donc sifflé tout au long du match après, et une défaite 2-1. Donc messieurs, est-ce que vous êtes inquiets pour l'OM à 4 jours de la reprise, sachant évidemment que les forces vives de l'OM sont parties? Et d'ailleurs, un petit clin d'œil, Aubameyang, aujourd'hui, il lançait sa saison en Liga, vous le savez, avec son nouveau club, La Corogne. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait, évidemment? Il a marqué le Gabonais.
Il n'a pas seulement marqué, il a mis un super but.
Très joli but de la part du Gabonais. Alors, score final, finalement, un but partout entre La Corogne et Elche. Mais en tout cas, c'est Aubameyang qui avait permis à son nouveau club d'ouvrir le score. Messieurs, est-ce qu'il faut être inquiet pour l'Olympique de Marseille, qui malheureusement doit dégraisser, qui a un effectif qui a été amoindri pour l'instant par rapport à la saison passée et qui va commencer sa saison vendredi face à Strasbourg?
Moi, je suis plus inquiet sur ce qui se passe dans les bureaux que sur le terrain. On l'avait dit, le retour,
tout est lié, hein.
Le retour de Lorenzi, pour moi, devait être signe un petit peu de calme au sein de l'Olympique de Marseille.
Non, l'arrivée.
L'arrivée, qu'est-ce que j'ai dit? L'arrivée de Lorenzi, pour moi, devait être signe un petit peu de stabilité et de calme au sein de l'Olympique de Marseille. Et puis, la sortie de Genesio m'a fait comprendre que finalement, c'était toujours autant le bordel dans ce club que qui mérite en tout cas de retrouver un petit peu le haut du classement. Après, moi je m'étais positionné par rapport à l'effectif marseillais. On sait très bien que Marseille doit dégraisser, c'est le cas avec les départs de Greenwood notamment, donc on le sait que Marseille est dans une situation économique où Franck McCourt a décidé de fermer les robinets et qu'il faut absolument dégraisser pour récupérer de l'argent. Il y a eu ce cas Hojbjerg, malheureusement, qui décide de rester. Quand je regarde le 11 titulaire contre l'Atlético Madrid, honnêtement, je me dis que l'équipe n'est pas si mauvaise. Alors évidemment, Balerdine nous a refait encore une erreur, mais quand tu regardes, Hojbjerg s'il devait rester, Abdelli, Gomez, Pechao, Guiri, Harit, c'est quand même pas mal.
Pechao, le joueur en forme de cette préparation.
Qui a fait une très bonne préparation. Il ne faut pas oublier que l'Olympique de Marseille ne sera pas en Champions League, sera en Europa League. C'est une compétition qui d'ailleurs leur réussit plutôt bien sur les dernières années. Il y aura donc forcément beaucoup moins de pression et surtout le niveau sera quand même beaucoup moins élevé. Donc je me dis pourquoi pas, je parle uniquement d'un point de vue sportif, pourquoi pas si l'Olympique de Marseille arrive à garder un 11 titulaire potentiel comme celui qu'on a vu contre l'Atlético Madrid, je me dis il y a peut-être des chances qu'en Ligue 1, l'Olympique de Marseille puisse arriver à titiller le haut du classement. Maintenant la vraie question c'est de savoir quelles seront les attentes des supporters, parce qu'on sait très bien qu'à l'Olympique de Marseille, c'est un club à part, avec des supporters qui sont exigeants. On a entendu plusieurs auditeurs nous appeler sur les 10 derniers jours en nous disant qu'il serait compréhensible si l'Olympique de Marseille ne réussissait pas une grande saison, parce que on est sur une saison de transition, mais ça, j'y crois pas un instant. Moi, je suis convaincu que si Genesio et ses hommes ne commencent pas bien le championnat, et en plus, le calendrier est terrible, hein, parce qu'ils jouent 5 très gros matchs d'entrée, je pense que ça risque d'être un sacré bordel du côté de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, je mets un petit peu mon analyse entre parenthèses, Karine. Je ne sais pas vraiment ce qui va se passer cette saison à l'Olympique de Marseille, mais c'est vrai que j'étais très pessimiste à la fin de la saison dernière. Finalement, je me dis malgré tout, pourquoi pas, il n'y aura pas cette pression de la Champions League. Mais encore une fois, il faut que les supporters comprennent qu'on est sur une saison de transition et accepter que la saison de l'Olympique de Marseille risque d'être en demi-teinte. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Et en fonction de ça, on verra. Mais tu sais, l'appétit vient en mangeant. Il suffit que le début de saison soit positif côté Olympique de Marseille et ça peut prendre. Ça peut prendre parce qu'il reste quand même des joueurs de qualité dans ce groupe.
Ah mais moi aujourd'hui, mi-août, j'ai pas envie d'être inquiet. J'ai pas envie d'être inquiet précisément parce qu'on repart d'une feuille blanche avec un nouvel entraîneur. J'ai envie de me concentrer sur le sportif et j'ai envie que Bruno Genesio, qu'on a mis en avant cet été sur sa capacité à pouvoir fédérer. Et je pense que la péripétie autour du capitana a contribué à fédérer davantage le vestiaire. Et ben ça puisse être ressorti sur le terrain et avoir un Olympique de Marseille qui soit compétitif et conquérant. Parce que tu vas pas, encore une fois, on en a parlé tout l'été, tu vas pas traîner le fardeau de la saison 2025-2026 éternellement. Ce qui est fait. Aujourd'hui, c'est la saison 2026-2027. Il ne tient qu'à toi, Olympique de Marseille, de casser cette dynamique et de redémarrer à zéro avec une victoire et ensuite être en mesure de pouvoir enchaîner une bonne série. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas envie d'être inquiet sur l'Olympique de Marseille, quand bien même il y a des doutes qui sont légitimes, ça oui, mais de là à virer à l'inquiétude, non.
En tout cas, il y a des choses positives concernant Mathieu Valbuena. Je vous l'ai dit, il était aujourd'hui en interview chez nos confrères de la Provence qu'on salue et que vous retrouverez tout au long de la saison dans le podcast Marseille. Et Valbuena, qui est devenu depuis ami avec son ancien entraîneur, est allé le voir et il nous dit, notamment dans cette interview, Genesio amène de la tranquillité, Marseille en avait besoin. Il parle aussi de la réussite de Bruno Genesio. Je ne suis pas inquiet parce qu'il a su parfaitement le faire dans ses premières années lyonnaises, puis à Rennes et Lille. Il a eu des résultats partout, une incroyable constance, y compris sur la scène européenne. Comme je n'ai aucun doute sur son investissement, j'en ai encore moins sur sa capacité à redresser l'OM. Et puis, lui qui est resté très longtemps à Marseille, qui a connu les hauts et les bas, il a été champion de France, mais il a aussi connu les années galères, il dit... Je crois vraiment qu'un autre contexte, une meilleure ambiance peut libérer des joueurs qui ont souffert la saison dernière. Sur le papier, l'OM avait le deuxième effectif de Ligue 1, d'assez loin. Et cette année, on n'est pas à l'abri d'une très bonne surprise. quand on est inquiet pour Marseille, souvent ils peuvent nous surprendre.
Ça, je suis d'accord. Pour moi, ça va être ton principal, ça peut être un avantage, ton mercato interne avec des joueurs qui n'ont pas forcément été satisfaisants sur la saison 2025-2026, mais qui peuvent avoir une autre réalité sportive sur la saison 2026-2027, être des joueurs importants et performants pour l'Olympique de Marseille. De toute façon, aujourd'hui, tu n'as pas de mercato version externe. C'est ton mercato interne avec des joueurs qui doivent se révéler, des joueurs qui doivent être performants, avec un Bruno Genesio qui est un homme de vestiaire qui va devoir accompagner tout ça. Donc c'est ta principale sortie.
Il faut se méfier de l'OM quand on lui prédit le pire, parce qu'effectivement Valbuena, il a connu les saisons après la crise, etc.
Ouais, c'est toujours 2012, 2013, 2019, 2020.
Exactement.
C'est toujours en fait l'attente que tu as sur cet Olympique de Marseille. L'année dernière, ils avaient construit un effectif soi-disant pour titiller le Paris Saint-Germain. Ils ont bien commencé en Champions League. Je pense qu'on avait tellement d'attentes, et nous-mêmes, les journalistes, en tout cas tous ceux qui parlent du foot, on avait beaucoup d'attentes et beaucoup d'espoir pour cet Olympique de Marseille. Et puis finalement, il y a eu un peu toutes ces désaventures, et notamment ce qui s'est passé contre le club de Bruges, je pense à ça, en Champions League. Mais bon, la défaite aussi au Parc, la défaite au Trophée des Champions, enfin voilà, il y a eu, ça a été clownesque à un moment donné.
La défaite contre l'Atalanta Bergame, Lorient, enfin il y en a un paquet.
Celui contre le Sporting Lisbonne aussi. Après voilà, c'est l'Olympique de Marseille, là c'est un nouveau challenge qui commence. Mais je suis d'accord avec Valbuena, en fait finalement on attend tellement rien de cet Olympique de Marseille cette année.
On attend tellement rien,
c'est ce que disaient nos auditeurs.
On attend que l'Olympique de Marseille soit compétitif.
C'est ce que disait notre auditeur, en tout cas qu'il y avait beaucoup moins d'attentes sur cette saison par rapport à l'année dernière. Donc peut-être que ça va jouer en leur faveur, parce que justement ce qui gêne beaucoup de joueurs et ce qui plombe beaucoup de joueurs, c'est la pression infligée aussi par les supporters, par l'attente que suscite à chaque fois ce club.
Les supporters, ils sont aussi compréhensifs.
Mais pas que, les journalistes, compréhensifs.
Après,
j'ai du mal à croire. Mais oui, mais c'est ça, c'est la raison pour laquelle
les supporters ont été très calmes la saison passée.
Les supporters, parce que...
Attention, ça se justifie.
Les supporters, ils ont été quand même très compréhensifs.
Ah bon?
Ah oui.
Très compréhensif, alors que tout le monde critiquait. Et c'était même logique, attention, aujourd'hui, quand tu es l'Olympique de Marseille.
Par le passé, c'est un scandale absolu.
Mais il y a des supporters
qui ont envahi la commanderie. L'an dernier, ils ont été plutôt.
Mais t'as toujours ce même argument. Mais bien sûr. Ils ont été plus calmes, mais pas compréhensifs.
Excuse-moi.
Ah bon, d'accord. Donc ils étaient contents de voir leur Olympique de Marseille.
Compréhensif veut pas dire d'être content.
Donc c'est-à-dire.
Eh ben, ils ont essayé tout au long de la saison d'encourager les Marseillais et les banderoles.
Et c'est tout à leur honneur. Et évidemment que c'est dans leur droit, quand tu es supporter de l'Olympique de Marseille, d'attendre que ton club joue les trois premières places et se qualifie en Ligue des Champions. C'est normal. Mais arrêtez de dire que demain, si l'Olympique de Marseille, je t'avais dit, fait une saison moyenne, les supporters seraient compréhensifs.
Maxime,
c'est pas
les
possible.
Cagades de l'Olympique de Marseille ne s'expliquent pas par le fait que les supporters ont fait n'importe quoi.
Non, mais c'est un tout. Je t'ai parlé de la pression du logo.
Au contraire, les supporters, moi, je les ai vus même limite résignés, parce qu'à chaque fois, c'est la même chose. Parce que, en fait, à la direction, sur le terrain, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont amené les supporters à même avoir, tu sais, c'est quoi le pire? De l'indifférence par rapport à l'Olympique de Marseille.
Ah, il y avait une résignation.
Bah oui, il y avait
saison.
De l'indifférence. Et ça, c'est pire que la colère. L'indifférence, en gros, puisque c'est comme ça, j'en ai plus rien à faire.
Ils voulaient que la saison se termine au plus vite. On va accueillir justement Loïc, supporter marseillais, au 32-16 sur RMC. Bonsoir, Loïc.
Salut à tous.
Salut, Loïc.
Loïc, t'es supporter de l'OM depuis quand?
J'ai 43 ans, donc depuis le début des années 90. Tu vois, j'ai vu la finale contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Et déjà, j'étais fan de l'OM à l'époque, donc j'avais 6-7 ans.
Donc, t'en as vu beaucoup. T'as vu les plus hauts, les plus bas, t'as tout connu.
Ouais. J'ai connu la D2. On est passé du toit du monde, pour nous, au bas-fond de la Ligue 2. Avec différents joueurs, on a connu des Marquis Brad, des Tony Cascarino.
Tony Cascarino, je l'adorais.
Mais juste avant, on avait Rudy Voller, donc si tu veux.
Il y en a un qui t'a fait gagner la Ligue des Champions, enfin, qui était dans l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions, et Tony Cascarino, il a été important en Ligue 2.
Qui t'a fait me remonter en Ligue 1. Donc, on a eu des mecs vaillants, vaillantas. Après, aujourd'hui, comme tu disais très justement tout à l'heure, c'est la résignation qui domine chez la plupart des supporters de l'OM. Là, je suis en vacances du côté de Bruxelles avec ma famille. On a dit, on descend jusqu'à Marseille, on ira voir le match vendredi soir. Mais si tu veux, on s'attend. J'ai moins d'engouement d'y descendre vendredi soir qu'il y a 2 ou 3 ans où il y avait de l'engouement, où tu t'attendais à quelque chose. Là, les joueurs, je ne veux pas stigmatiser Balerdi, le pauvre. Parce qu'aujourd'hui, il me fait de la peine, ce mec, tu vois. C'est un exemple parmi d'autres. Mais on a de la résignation, de l'indifférence et de la colère. Et on se dit, au pire, on aura une bonne surprise, on va finir dans les 7 premiers.
Alors qu'on est l'OM.
Attends, ouais, cette première, là, t'es vraiment pas ambitieux. Là. Toi, tu penses que Marseille peut pas espérer un peu mieux?
Mais non, mais l'équipe,
l'équipe que t'as en Ligue 1, ça passe tous les jours dans les 5 premières places, non? À condition, évidemment, après, de garder encore.
Le truc, c'est qu'on n'est pas dans FIFA. Les mecs, ils jouent pas en équipe. Ils jouent pour leur gueule. C'est ça qui est problématique.
Non, faut surtout créer une équipe.
Ils sont moins huppés que nous et qui jouent beaucoup mieux au football, quoi.
Ah, mais c'est sûr qu'il faut créer une équipe. Et ça, c'est le travail de Genesio. Mais, enfin, quand même, individuellement, je suis d'accord avec toi. Je l'ai dit un peu plus tôt. Tu ne peux pas uniquement créer une équipe par rapport au nom. Mais bon, c'est quand même des joueurs qui se connaissent. Il y a des automatismes. Il y a l'amour du maillot pour certains, même si c'est plus le cas de beaucoup de joueurs du côté de l'Olympique de Marseille. Mais j'ai quand même bon espoir que Marseille va finir dans les 5 premières places. Enfin, il y a quand même assez de qualité dans ce groupe, rassure-moi.
Mais la qualité, elle y est. Je suis entièrement d'accord avec toi. Pardon, je te coupe. La qualité, elle y est. Je suis d'accord avec toi. Il y a des internationaux à toutes les lignes. Seulement, ensemble, ils jouent pas au foot. Une somme d'individualité n'a jamais fait un collectif. Et là, c'est encore plus criant. Avec tout le respect que j'ai pour Lens, Lille, tous les mecs qui ont fini devant nous, même Lyon, putain, même Lyon, tu te rends compte? Même Lyon qui était éclaté au sous-sol en début de saison l'année dernière.
Enfin, éclaté, non. Justement.
Mais on fanfaronnait à la fin août.
Et finalement, est-ce que c'est pas ça le problème? Est-ce que c'est pas ça le problème? C'est-à-dire qu'on attendait, peut-être trop, vous attendiez un peu trop peut-être de cet Olympique de Marseille. Ça a été vendu aussi par Logoria, par Venezia.
Le mercato, je suis pas venu pour être deuxième.
Le mercato aussi qui avait quand même été intéressant. On pensait tous que l'Olympique de Marseille serait en mesure de pouvoir titiller le Paris Saint-Germain. Est-ce que finalement c'est pas ça qui vous a le plus frustré? C'est tous les matchs qu'ils ont laissé passer, c'est tous les problèmes internes qu'il y a eu, et aujourd'hui, Elton l'a dit, je comprends quand tu es supporter marseillais que finalement le terme adéquat c'est la résignation. Mais cette année, et Valbuena l'a dit aussi intelligemment, il y a tellement peu d'attentes que il va peut-être avoir une bonne surprise côté Marseille. Et maintenant, en tant que supporter, moi j'ai envie de te poser la question, si sur les 5 premiers matchs, il y a 5 défaites, est-ce que vous serez toujours positif en disant c'est une année de transition, c'est ok? J'en suis moins sûr.
Ah, je ne suis pas convaincu une seule seconde. Tu as raison, parce que là, si tu fais le final, les bilans totaux, tu te dis à 4 points, tu accroches la Champions League. Et 4 points, c'est le match nul contre Toulouse à la dernière seconde, c'est le match nul contre Angers dans les 5 dernières minutes. Tu te dis Strasbourg, tu te dis à chaque fois.
C'est la défaite à Lorient, c'est les 0 points contre Nantes. Oui. Enfin, là, tu peux refaire toute la saison, Loïc.
Ah, mais maintenant, Loïc, maintenant, il faut basculer sur
ce faut oublier 2026, ce qui s'est 2027, passé. Maintenant. Mais est-ce que les matchs amicaux que tu as pu voir cet été, le fait que Bruno Genesio a eu des bons résultats par le passé dans les clubs où il était, est-ce que ça, c'est quand même un motif d'espoir pour toi? Même Pachao aussi, on l'a vu. Alors, il a coûté très cher, plus grosse recrue de l'histoire de l'OM, blablabla, on connaît l'histoire, mais là, c'est plutôt intéressant ce qu'il a fait en match de préparation.
C'est un match amico, hein, Karina.
Oui, non, mais est-ce que ça te permet d'être un petit peu plus optimiste?
Oui, on a, je dirais, peut-être un peu plus de certitude sur certains joueurs, où on les récupère à 100% après une vraie prépa physique, avec l'équipe, avec le club, avec le coach. Ce qui est, à mon sens, quelque chose de primordial quand tu prévois, en tout cas sur les 3-4 premiers mois de la saison. Il y a des certitudes, mais il y a tellement d'incertitudes derrière. Aguert qui est parti, mais qui revient. Balerdi qui devait partir, mais qui est toujours pas parti. J'ai l'impression, si tu veux, qu'on tâtonne. Delange qui devait partir, et puis au dernier moment, apparemment, ça se ferait pas. Hojbjerg qui devrait partir, mais qui au dernier moment, ça se fait pas, toujours pour une histoire de salaire, je suppose. Hein. Après, je suis pas dans les secrets des dieux, mais j'ai l'impression que c'est un peu la panique à bord, quoi. Si demain un club arrive avec 40 millions sur Pachao, est-ce que McCourt qui prend pas la cadillac
et ça serait très grave. Ça, ça serait
compliqué. Je suis quasi persuadé, tu vois. Là, il parle de Mmadi, le petit jeune qui est extrêmement talentueux. Ouais, parce qu'il y a d'autres clubs aussi qui le surveillent. Mais
Je vais donner juste l'information parce que tu viens de l'évoquer. Effectivement, on parle de Mbadi, donc 19 ans, un tout jeune joueur, et on parlerait d'une possibilité qu'il soit transféré au FC Utrecht pour 5 millions d'euros. Voilà, donc
là,
peut-être
c'est une grande braderie, là, hein.
Le minot qui pourrait partir, mais rien n'est fait encore.
Pas forcément l'OM s'il devait partir. Je veux dire, ça.
Voilà, on attend de savoir la position de l'Olympique de Marseille.
Mais actuellement, quand tu regardes cet effectif, même si tu l'as dit, en effet, c'est pas une somme d'individualité qui fait forcément le succès d'une saison, c'est même très rarement le cas. T'as quand même des joueurs qui, normalement, avec leur statut, avec leur qualité, doivent être en mesure d'amener à l'Olympique de Marseille dans les 5 premières places. Ça peut être jouable. Ça peut être jouable.
Ça doit être jouable.
Ça peut être jouable. Mais en fait, la question intervient à un moment donné où finalement, c'est l'attente, c'est ça. C'est à partir de quel moment, lorsque tu es supporter, tu acceptes les défaites de l'Olympique de Marseille ou tu deviens justement exigeant au point de dire non, c'est pas normal. Et en fait, elle est là, l'attente. Valbuena l'a dit très justement. On a tellement peu d'attentes sur cet Olympique de Marseille qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Qui sait, l'appétit vient en mangeant. Hein.
Ouais, mais écoute, si c'est ça, je signe de suite. Hein. On a Thomas, je t'invite au resto et l'édition est pour moi.
Mais je te l'accorde en tant que supporter de l'Olympique de Marseille, mais ça devrait pas être le cas. Normalement, tu devrais avoir un club qui performe chaque année et tu devrais pas être dans une situation. Tu devrais pas être dans une situation où une saison sur trois, ça part en cacahuète. Mais bienvenue à l'Olympique de Marseille, malheureusement.
Et encore une saison sur trois, t'es gentil. Ouais. À l'été dernier, il y a à peu près un an, quasi jour pour jour, on se gargarisait d'avoir gardé Rabiot. On se disait, putain, on a une super équipe. On va pouvoir au moins titiller un peu le PSG.
Bah, l'été dernier, tout allait bien, dans le meilleur des mondes.
Oui, avant Rennes, tout allait bien.
Avant match contre Rennes.
Merci Loïc d'avoir été avec nous au 32-16 et on te souhaite donc un bon match. Vendredi, tu seras au Vel, hein, c'est ça?
Ouais, c'est ça, exactement au Vel.
Et ben bon match. Merci beaucoup d'avoir été avec nous au 32-16. Belle soirée à toi.
Au passage, intéressant, là. L'interview de Valbuena, ça sent le mec qui a envie de se recaler dans le staff de Genesio.
Comment ça?
Ah, on sent qu'il est en fin de parcours aussi.
Il a le droit de dire du bien.
Non, mais c'est vrai que quand tu dis autant de bien, j'ai le sentiment que.
Non, mais alors toi,
écoute, je suis.
Non, mais toi, tu vois le mal partout.
Non, pas du tout. Au contraire, je vois l'Olympique de Marseille faire une belle surprise cette saison.
Genesio, il a.
Mais un Valbuena qui se positionne comme ça alors qu'on sait qu'il est sur la fin.
Il se positionne concrètement comment?
Bah, t'as bien compris, hein. Je vois qu'il encense Genesio.
Il
encense Genesio.
Tu récupères quand même celui qui est le meilleur entraîneur français qui a eu le titre encore récemment.
J'adore Genesio. Il a fait du très bon travail.
Il a été nommé deux fois meilleur entraîneur de Ligue 1. Ce n'est pas rien. Je fais dans la tier list des coachs français. Il est en haut.
Non, mais bien sûr. Je suis pas en train de te dire que Genesio mérite pas d'avoir le poste.
Non, mais
moi, j'ai trouvé que c'était une bonne solution depuis le début. J'avais dit que Lorenzi avait fait le bon choix. J'explique juste que Valbuena, la manière dont il se positionne, cette interview me fait penser que peut-être il a envie de rejoindre son staff, c'est tout simplement.
En tout cas, là, il joue à Malte, rappelle Nagy.
Et la suite logique après Malte, c'est t'arrêtes ta carrière et tu rentres dans un staff.
Après, les mauvais ongles te diront est-ce que Valbuena sera arrivé dans le staff si Genesio est encore là.
Ah ouais. Oui, et après, de toute façon, imaginez, mais on en est très loin, une reconversion de que Valbuena à Marseille, c'est pas non plus complètement lunaire. Il est resté longtemps, il a gagné des titres. Voilà.
C'est un jour très important sur les 10 dernières années.
Donc l'appel du pied de Valbuena, j'espère qu'il sera entendu de la part du Genesio.
Enfin, l'extrapole, il a donné son avis sur l'Olympique de Marseille.
Ah, bah, allez, c'est bon,
et sur un homme qui connaît bien, un entraîneur, évidemment, avec qui il a
connu. Avec qui il a joué la Ligue des Champions.
À Lyon.
Allez,
on rappelle.
Ouais. Voilà. Ça, faut pas le dire, pas.
De toute façon, il y en a des anciens lyonnais dans le staff et même dans l'équipe. Hein. Oui, c'est pas un secret, évidemment. Dans quelques instants, toutes les informations Mercato. On est ensemble jusqu'à minuit sur RMC. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot.
Karine Galli. On est ensemble sur RMC jusqu'à minuit avec Elton Mokolo, avec Maxime Chano, avec vous sur le WhatsApp RMC, mais aussi au 32-16. Messieurs, Mbaye s'est mis d'accord avec Liverpool, qui continue de négocier aussi pour Barcola. Alors, concernant Mbaye, il est OK avec les Reds pour un contrat de 5 ans. Les Reds doivent évidemment se mettre d'accord maintenant avec le PSG. Et du côté de Barcola, on a appris qu'il ne réintégrerait pas l'effectif du PSG tant que la question de son avenir n'est pas réglée. Donc en fait, il est mis dans le loft.
Oui, c'est pour éviter une possible blessure. Donc là, on est clairement sur Barcola qui est sur la porte de sortie. Et donc ouais, ça me paraît logique. Voilà, Luis Enrique l'avait déjà exprimé en conférence de presse après Lens, en disant que voilà, il y avait une équipe qui jouait et il y avait le mercato. On en parlera plus tard. Barcola était à côté de Luis Campos du côté dans les tribunes de Boulard. Donc c'est une suite logique.
Ibrahim Mbaye qui part à Liverpool. 18 ans, bonne idée, trop précipité.
Moi, j'aurais préféré davantage la Bundesliga pour lui, pour qu'il puisse jouer. Mais de l'autre côté, à Liverpool, il y a des opportunités parce qu'ils ont besoin de se renforcer sur les côtés. Et Ibrahim Baye, voilà, il y a cette possible opportunité.
J'aurais surtout préféré le voir rester, moi, au Paris Saint-Germain.
Ah, mais il y a pas d'option.
L'avenir nous dira s'il a fait le bon choix. En tout cas, avec lui, avec Ekitike, avec Barcola, s'il doit arriver à Liverpool, Liverpool qui va vraiment avoir un fort accent français devant.
On rappelle que Cody Gakpo pourrait quitter Liverpool, donc ça soulagerait les finances du club de la Mercedes et aussi ça laisserait un petit peu plus de place potentiellement à l'ancien du PSG s'il venait à être transféré. Du côté de Manchester City, on ne lâche pas Boadi et on parle d'un transfert record. 100 millions d'euros selon la BBC. Bon, 100 millions d'euros, tu le mets dans l'avion, hein?
Évidemment, oui, c'est la plus grosse vente Ligue 1 à l'étranger, donc forcément tu le mets dans l'avion. Et pour Manchester City, il y a un besoin urgent de reconstruire son milieu de terrain, encore plus après cette défaite contre Arsenal sur le score de 3-0 qui a pas forcément plu outre-manche.
Ouais, je suis d'accord avec Elton. Si je suis Olivier Letang, je pousse, j'emmène même Boadi directement à Manchester. Très belle recrue hein, pour Manchester City. Ça devait se finaliser, même si j'attends de voir un petit peu son adaptation en Première Ligue. Et puis finalement, pour le LOSC, il a été très très bon l'année dernière. Mais c'est vrai que quand il y avait Benjamin André, Ben Taleb, c'était pas forcément un titulaire indiscutable. Il a fait une très belle Coupe du Monde avec le Maroc. Ça va être une perte évidemment pour le LOSC. Mais à partir du moment que tu fais un chèque de 100 millions d'euros, enfin clairement il faut le laisser partir, même pour par respect pour le joueur finalement, pour sa marge de progression, pour son évolution. Je pense que c'est une situation win-win pour le joueur, pour Lille et pour Manchester City.
Sa marge de progression, mais là il va dans un autre monde parce que le Manchester City post Guardiola, post Rodri, post Bernardo Silva, bonne chance.
Ouais, post Rodri. Ouais,
bah voilà, bonne chance, parce que là, il y a des monuments qui sont partis.
Ah oui, ça va être compliqué, ouais, ça va être compliqué. Il va avoir énormément de pression, notamment s'il signe pour ce transfert-là aussi.
Parce que là, il aura l'étiquette du gars qui vient 100 millions. Mmh. Et l'étiquette qui est pour moi injuste, successeur de Rodri, alors que pour moi, ça n'a rien à voir.
Ben justement, Rodri, il est arrivé lundi en Catalogne, donc aujourd'hui, et la nouvelle recrue du FC Barcelone a parlé de son ambition. Il rêve de jouer, évidemment, pour le FC Barcelone. Bon, ça, tous les joueurs le disent quand ils arrivent dans un nouveau club. Mais aussi, il vise la Ligue des Champions. Est-ce que ça doit être l'objectif numéro 1 du Barça? Toi qui es supporter du Barça, Elton, depuis 2015, plus de victoires en Ligue des Champions et des fiascos, des remontadas aussi derrière.
Oui, évidemment, ça doit être un objectif très important, prioritaire. De là, parler d'objectif numéro 1, il y a encore la Liga. Le Real Madrid va être énervé cette saison parce qu'ils vont vouloir reconquérir ce titre. Mais évidemment, la finale à Madrid, c'est coché en rouge pour le 5 juin 2027. Tu vois, j'ai déjà la date, pour te dire.
T'as pris tes billets, surtout?
Pas encore.
Dépêche-toi, les prix montent après.
Non, justement, ça peut baisser.
Non. Des places pour une finale de Ligue des Champions ou de Coupe du Monde ou d'Euro.
Non, des billets d'avion.
Ah oui, d'accord.
Ah oui, ça oui.
Mais c'est toujours mieux de les prendre très en avance quand même. Hein.
C'est vrai.
Une bonne nouvelle pour toi, Maxime.
Dis-moi.
Et surtout pour Olivier Giroud. On a vu une grosse frayeur parce qu'il s'était blessé au genou lors du match amical face à Everton. Et les examens sont rassurants. On rappelle qu'il va bientôt fêter ses 40 ans. Il y avait beaucoup d'inquiétudes. Et donc, il pourrait même être disponible pour le déplacement à Angers dimanche lors de la première journée de la Ligue 1.
Ouais, c'est top. À 40 ans, t'imagines la longévité. Pour avoir joué avec lui, je peux te dire que c'est un très grand professionnel vraiment qui prend soin de lui. Donc non, c'est bien pour lui. C'est peut-être d'ailleurs sa dernière saison dans le football professionnel. Et puis surtout, c'est bien pour Lille parce qu'avec la blessure d'Igaman, les envies de départ de Fernandes Pardo.
L'imbroglio Fernandes Pardo qui visiblement ne veut pas jouer.
Clairement, le LOSC a besoin de joueurs et surtout en attaque. Donc c'est bien pour lui, c'est bien pour le LOSC. En attendant, comme tu l'as dit, de voir ce que ça donne avec le Belge Fernandes Pardo.
Des nouvelles d'un autre Français, Karim Benzema, qui pourrait quitter Al Hilal. Simone Inzaghi ne compterait plus sur lui, et selon le média donc AS, il pourrait être libéré de son contrat.
Ah, ce serait quand même une nouvelle importante parce que Karim Benzema, il y avait eu ce transfert qui a été mouvementé d'Al Ittihad à Al Hilal, ce qui n'est pas rien. Et là, c'est quoi? Ce serait un an et demi après, il partirait d'Al Hilal parce que Simone Inzaghi ne compte pas sur lui. Ce serait une fin de carrière possiblement saoudienne bizarre.
Ouais. Chose quasiment impossible, un retour à Lyon, tiens, pour terminer. Ouais,
non, pas, il a dit non.
Ça me paraît très improbable.
Pour boucler la boucle.
Mais non, justement, lui, il a jamais fait rêver, il a été honnête. Il a toujours dit qu'un retour à Lyon, ça semblait être très compliqué. Tu vois, c'est que les joueurs, là, qui toute leur vie, le jour où ils quittent leur club formateur, disent, je rêve de revenir, je reviendrai peut-être, non, éventuellement.
Du coup, Benzema, ça aurait été beau pour le storytelling de rentrer à Lyon.
Et du coup, Benzema, je parle de fin de carrière possiblement saoudienne, mais s'il reste là-bas, donc il ferait quoi? Al Ittihad, Al Hilal, et pourquoi pas Al Nasser? avec Cristiano Ronaldo pour boucler la boucle.
Ah bah écoute, ça, on va suivre évidemment la prochaine destination. Mais en tout cas, moi je trouve qu'il a jamais laissé de faux espoirs aux supporters lyonnais. C'est très cash, c'est très bien. Et donc voilà, c'est plus correct, je trouve, pour les supporters. Un dernier mot, c'est le Français Kevin Lamour, numéro 3 de la FIFA. Il a critiqué Gianni Infantino. On ne critique pas le boss. Ben Youp. Oui. Licencié.
Avec Gianni Infantino, il n'y a pas de divergence, il n'y a que des convergences.
Voilà. Donc, on rappelle que le Français a été donc démis de ses fonctions ce lundi suite à des critiques envers Gianni Infantino au sujet donc du projet controversé de création d'une filiale commerciale de l'instance internationale. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été à mes côtés. Merci Elton, merci Maxime.
Merci à tous.
Merci à Najib Mefolo qui était aux manettes de l'émission. Et demain, on vous rappelle, Lyon qui joue son avenir en Ligue des Champions, ça sera sur la pelouse du Fenerbahçe. Belle nuit à tous sur RMC.
RMC, l'after foot.